Bonjour, bienvenue à l'émission Dans la mer climatique sur les ondes de CHIZ 94.3. Ici Naomi, votre animatrice, en compagnie comme toujours de ma co-animatrice et collaboratrice Jeanne.
Bonjour.
Donc à l'émission aujourd'hui, nous voulons nous intéresser à l'agriculture et son lien avec les enjeux climatiques. Donc on sait que le secteur agricole est tout de même un secteur assez polluant qui a des grandes répercussions sur les changements climatiques et c'est donc pour ça qu'on a décidé de dédier un épisode complet sur la question.
En effet, Naomi, là, les activités agricoles contribuent de manière non négligeable au changement climatique. C'est important de le rappeler. Donc, au niveau mondial, 24% des émissions totales de GES proviennent de l'agriculture et de la foresterie, alors que l'agriculture cause là, environ 10% des émissions totales de GES au Canada pour 9,2% au niveau de la province de Québec. Donc, outre les gaz à effet de serre là, qui exacerbent le réchauffement global de la planète, on sait que les activités agricoles à travers le monde polluent les cours d'eau, contaminent les sols, notamment par l'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides, ce qui met en péril les écosystèmes et la biodiversité, mais c'est quand même une activité là, qui est essentielle là, quand même à la survie de l'espèce humaine. C'est aussi une activité qui est extrêmement affectée par les changements climatiques. Donc, comme on a pu le constater cette année, alors que les événements climatiques extrêmes et les températures ont grandement affecté les récoltes. Donc, en effet, les sécheresses, les fortes précipitations qui inondent les champs et les feux de forêt sont un réel danger pour la production agricole actuelle. On voit que la situation affecte la disponibilité et le coût des aliments et, d'une manière plus large, la sécurité alimentaire mondiale. Il y a donc des grands défis à relever en agriculture pour réduire les émissions de GES et les polluants dans le secteur, mais aussi pour s'adapter là, à la réalité que deviennent les changements climatiques.
Donc, aujourd'hui, on veut vraiment se pencher sur les manières dont le secteur agricole contribue au changement climatique, mais aussi comment les changements climatiques affectent comment le secteur est affecté par les changements climatiques. Donc, pour parler de la question aujourd'hui, nous accueillons avec nous Simon Corbeil, Léonie Laflamme-Michaud et Félix Huot, qui sont étudiants et étudiantes au cycle supérieur en agronomie à l'Université Laval. Bonjour à vous!
Bonjour!
Bonjour!
Allô!
Donc, on vous a invité aujourd'hui, bien entendu, pour votre expertise là, dans le milieu agricole, puisque vous êtes agronome, mais aussi parce que vous êtes les fondateurs du projet étudiant.ferme. Donc, j'aimerais ça vous laisser présenter un peu votre projet. Donc, c'est quoi Point Ferme? Puis, c'est quoi les missions de votre projet?
Oui, donc Point Ferme, c'est un projet étudiant qu'on a démarré cette année. L'objectif qu'on s'est donné, c'est de vulgariser l'agriculture au Québec. Donc, ce qui nous a poussé à faire ça, là, c'est que, dans le fond, l'agriculture fait quand même beaucoup les manchettes dans les dernières années, qu'on parle de pesticides, d'OGM, d'éthique animale, d'agriculture locale et biologique. Vous en avez parlé aussi là, de sécheresse, de feux de forêt. Bon, l'agriculture, on en parle beaucoup. Puis, ben nous, étant des personnes qui ont étudié dans le domaine, ben on remarque souvent là, qu'il y a des choses qui vont se dire qui font souvent pas de sens. Donc notre objectif là avec Point Ferme, dans le fond Point Ferme c'est une page Instagram, ça c'est une plateforme de vulgarisation sur Instagram. Puis notre objectif c'est vraiment de faire connaître l'agriculture aux gens, mais aussi de discuter là des grands enjeux de l'agriculture et particulièrement les changements climatiques.
OK. Donc, vraiment, le but, c'est la vulgarisation, mais aussi de remettre les pendules à l'heure un peu par rapport aux réalités puis aux faits là, dans le milieu agricole. Donc, merci beaucoup, Simon, pour la réponse. Donc, je vais commencer là, vraiment dans le milieu du sujet. Donc, tout d'abord, quels sont les risques et les dangers là, principaux auxquels fait face le milieu agricole au Québec et au Canada par rapport au changement climatique? Je vous laisse répondre.
Ben c'est sûr que d'abord il faut se dire les vraies choses. Là, l'agriculture ça dépend considérablement de l'environnement. Donc c'est sûr que avec les changements climatiques, si on vient modifier l'environnement, ben on va venir aussi impacter là, la manière dont nos activités agricoles produisent, la manière dont on peut nos rendements en fait, puis la qualité aussi des aliments qu'on produit. C'est sûr que quand on parle de changement climatique, on pense rapidement aux événements climatiques extrêmes, donc plus de sécheresse, des plus fortes pluies. On peut parler de chaleur aussi, donc des températures plus élevées. Puis tout ça, ben c'est sûr que ça va venir affecter là, la production agricole. Au niveau des animaux, ben c'est sûr que la production animale, elle, ben, les animaux majoritairement ils sont à l'intérieur des bâtiments de ferme, donc on est capable de mieux contrôler leur environnement, mais on sait que les animaux sont quand même affectés par une hausse des températures, donc eux aussi vont souffrir puis vont développer plusieurs problèmes là, par rapport à ce qu'on appelle le stress de chaleur que les changements climatiques pourraient exacerber là, dans nos fermes. Puis finalement, ben j'aimerais quand même discuter du fait que c'est pas seulement les intempéries ou les effets des changements climatiques au Québec qui vont affecter la production agricole québécoise. Donc, l'agriculture, elle est mondiale. Mmh. Puis on est dépendant de ce qui se produit dans les autres pays, que ce soit pour des engrais, que ce soit pour le prix des aliments ou pour la nourriture, pour les humains ou pour les animaux. Donc, s'il y a des événements climatiques extrêmes qui arrivent à n'importe où sur la planète, ben ça va avoir un impact au Québec là, directement sur nos fermes puis directement dans notre assiette aussi.
Donc ben justement, on l'a rappelé souvent à l'émission, mais les changements climatiques, ben c'est un problème global, donc c'est sûr que ça va affecter le monde entier, mais aussi particulièrement là, au Québec et au Canada. Puis tu parlais justement de la hausse des températures qui ont un grand impact sur les productions agricoles. Donc on sait que en fait au Québec, cette hausse de température là, elle pourrait avoir quand même des impacts, on pourrait dire, positifs, et là, je le dis entre guillemets, en fait, c'est que cette hausse-là pourrait permettre une plus longue période de croissance et en fait, ça pourrait permettre à certains territoires plus au nord, en fait, de la province, de devenir des terres qui seraient favorables à l'agriculture. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on pourrait dire justement que la hausse de température, c'est un effet qui est bénéfique pour la production agricole au Québec? Est-ce que ça équilibre un peu les effets néfastes? Est-ce qu'on peut voir ça d'une manière positive, en fond?
Ben, en fait, je peux prendre la balle au bon. Là. Je pense que le point est bon, puis fait que la réponse, ça serait oui, mais.
Ouais,
en fait.
Gros mais.
Exactement. Donc, c'est sûr que si on augmente la température des régions plus nordiques, ben, on va augmenter le potentiel agricole de ces régions-là, donc, sur papier. Ensuite, si ça vient avec des événements climatiques qui sont plus extrêmes, on va avoir un déséquilibre de toute façon là, à ce niveau-là. Mais déjà, on le voit, il y a des cultures qui remontent tranquillement là, au Québec. Donc, les producteurs de différentes régions sont capables d'intégrer de nouvelles cultures. Mais ça peut venir aussi avec des nouvelles plantes nuisibles, ça peut venir aussi avec des nouveaux ravageurs. Donc oui, on augmente le potentiel agricole, mais on augmente aussi les défis là, à ce niveau-là.
Si je peux rajouter juste comme un exemple, comme on l'a vécu un peu en pandémie, c'est l'accès aux fruits exotiques, si on veut. Là. Ouais. Si on pense à une augmentation des températures, ben, ça pourrait nous apporter comme des nouvelles cultures possibles à faire, donc produire des aliments un peu plus locaux, mais comme Félix l'a mentionné, c'est sûr, ça vient avec d'autres enjeux, mais il faut penser aussi à l'adaptation que ça va apporter puis à l'accès à des nouvelles ressources qu'on va avoir.
Oui, donc ben là justement c'est que ces territoires-là sont pas adaptés à cette nouvelle réalité-là. Donc là, c'est ça. Moi je vous le disais, mais vraiment avec un gros bémol. Donc merci beaucoup pour vos réponses, là, Léonie et Félix. Donc en fait, quelles sont les pratiques agricoles humaines, donc les actions humaines qui sont les plus néfastes pour l'environnement? Qu'est-ce qui aggrave le plus la situation selon vous?
Ben ouais, je peux y aller. Dans le fond, c'est sûr que là je commencerai très général, mais l'agriculture, c'est une pratique qui va être destructrice de l'environnement par défaut. En faisant de l'agriculture, on convertit comme des milieux naturels pour produire notre propre nourriture. Fait que, par défaut, l'agriculture, c'est une pratique destructrice de l'environnement, mais qui est comme au point où on en est rendu, qui est nécessaire là, pour pouvoir nourrir la population. Mais par la suite, évidemment, là, on va avoir des pratiques qui vont être moins néfastes que d'autres. C'est quand même une grande question. Là. Je ne sais pas par où commencer exactement.
Ça répond très bien à la question. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus?
Ben, simplement dire que les pratiques agricoles changent, ils évoluent. Puis il y a beaucoup de recherches. Les gens seraient surpris de savoir à quel point il y a de la recherche qui se fait là, en agriculture. Donc, que ce soit pour ce qui se passe au champ, pour les sols, au niveau de la production animale aussi. Donc, toute cette recherche-là, elle veut, d'un point de vue, augmenter les rendements, donc augmenter ce qu'on peut récolter tout en diminuant l'impact. Donc, c'est sûr qu'une des méthodes d'avoir une agriculture qui a le moins d'impact possible, c'est de produire plus avec moins avec moins d'intrants. Donc, produire la même quantité de lait avec moins de vaches, par exemple, ou produire la même quantité d'aliments avec moins de territoires affectés, par exemple. Donc, je pense que si on continue à rechercher des nouvelles manières de faire, si on continue à vouloir augmenter et faire évoluer nos pratiques, notamment par la recherche, notamment par des essais chez les producteurs, donc eux aussi détiennent une certaine partie de la clé de la solution. Donc, je pense que plus on va être productif sur en diminuant notre impact, et ce serait la meilleure manière de réduire les... Tu parlais, en fait, la question, c'était c'est quoi les effets humains là, ouais. qui sont néfastes. Mais en fait, moi, je le vois un peu de l'autre côté, là, comment on peut réduire notre impact.
Mm-hmm. Je pense qu'un point important de justement l'impact, c'est surtout les choix qu'on fait aussi au niveau des aliments qu'on achète. Donc, quand on pense au transport, je crois que il faut pas oublier que le transport, c'est un producteur majeur de gaz à effet de serre, puis c'est la principale... des impacts les plus importants. Fait que quand on fait des choix un peu plus locaux, simplement, ça permet de réduire l'impact qu'on vient d'apporter sur cet ingrédient-là au niveau de ces gaz à effet de serre. Donc, pensez aussi à cet aspect-là là, du choix qu'on fait à l'épicerie.
Oui. Bien, si j'essaie de répondre comme précisément à la question, là, parce que tu te demandais, tu sais, c'est quoi les pratiques les plus néfastes pour l'environnement en agriculture? Donc, on regarde d'un niveau mondial, c'est sûr que l'agriculture est encore en croissance, pas particulièrement au Québec. Là, normalement, les surfaces agricoles au Québec sont relativement stables.
Okay.
Mais dans certains pays en développement, donc beaucoup en Amazonie, là, il y a certains pays que l'agriculture est en croissance pour répondre à la demande mondiale. Puis, dans ces endroits-là, ces surfaces-là proviennent de surfaces forestières. Fait que la déforestation, je dirais que c'est pas une pratique agricole en soi, mais c'est souvent une conséquence là, de l'expansion agricole pour la production de grandes cultures, puis pour la production animale.
Mm-hmm.
Puis sinon, si on parle plus ici au Québec, c'est sûr qu'on parle souvent des pesticides. Fait que les pesticides, c'est différents agents qu'on va utiliser pour tuer, que ce soit des insectes nuisibles, que ce soit des mauvaises herbes qui sont dans le champ. Puis, dépendamment de leur utilité, en effet, ces produits-là vont avoir une certaine toxicité.
Oui.
Puis, ils ne sont pas utilisés pour rien au Québec puis dans le monde. Ils sont utilisés parce qu'ils nous permettent de produire ces aliments-là sans qu'ils se fassent attaquer là, par les nuisibles. Mais ça reste que c'est ça. C'est des éléments qui... C'est des produits qui peuvent être toxiques, puis qu'on vise quand même à réduire leur utilisation. Puis les agriculteurs puis les agricultrices les utilisent pas de bon cœur, ils les utilisent pas à n'importe comment. Ils essaient quand même de réduire leur utilisation, mm-hmm. mais ça reste un outil qui reste important, mais qui est néfaste.
Oui. Bon, je pense que vous avez tous vraiment bien répondu à la question. Donc, en fait, le problème avec l'action humaine, faut comprendre que ces actions-là sont essentielles quand même pour justement la sécurité alimentaire. Reconnaître aussi que ces actions-là peuvent être nuisibles pour l'environnement, c'est déjà un bon pas. Puis justement, Félix, tu parlais de l'innovation technologique. Donc, je pense que c'est cette reconnaissance-là qui est importante pour justement faire avancer les choses. Puis, ça m'amène à mon prochain point, justement. Quelles mesures, quelles solutions le milieu agricole peut-il mettre en place pour réduire ses émissions de GES? Donc, vraiment pour trouver les solutions là, par rapport à ces effets nuisibles-là.
Bien, il y a plusieurs... on peut décortiquer ça pendant longtemps. Là, il y a plusieurs aspects
oui,
qui pourraient...
Oui, vous pouvez y aller de manière globale aussi. Oui,
bien, moi, je vais parler de mon domaine, là, qui est plus la production animale. Bien, c'est sûr que, comme on l'a mentionné en introduction, c'est des environnements un peu plus contrôlés, donc c'est plus... on a un peu plus de facile de récolter aussi des informations, si on veut. Mais on peut ajouter aussi, comme c'est pas nécessairement dépendant de l'environnement extérieur, là je parle vraiment du Québec là, parce que notre l'élevage des animaux se fait en bâtiment. Donc on peut ajouter des installations, donc avoir recours à l'automatisation aussi de certains outils pour améliorer justement notre gestion toujours de l'élevage des animaux. Aussi ben on peut je sais pas si vous voulez renchérir avec
vos propres champs d'expertise, parce que justement, vous êtes agronome, mais vous avez vraiment des champs d'expertise différents.
Mm-hmm. Ben, moi, ce qui me vient à l'esprit, là, en fait, ça va être. Je pense qu'il faut. Je dirais, il faut adapter nos décisions, mais il faut. En fait, le point que je veux dire, c'est. Avec la technologie, ben maintenant, on peut avoir des ordinateurs qui nous assistent dans nos décisions. Donc, venir intervenir au bon moment, la bonne application au bon moment, localiser le bon ingrédient dans la ration de l'animal pour réduire qu'est-ce que l'animal va remettre dans son fumier. Donc, comment son fumier va être polluant, comment l'animal va émettre des GES par sa digestion. Donc, ouais, moi, je pense que si on parle un peu d'intelligence artificielle, si on parle aussi de données, donc il y a une foule de données qui se produit à la ferme. Donc, la ferme, ils produisent des produits agricoles, mais les fermes produisent aussi beaucoup de données. Puis ces données-là, ben, ils se perdent. Ben, ils sont pas nécessairement encore totalement valorisés. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait en ce moment là, pour développer des outils à partir de ces données-là qui pourraient aider là, le producteur à prendre les bonnes décisions au bon moment. Puis de ce fait, le réduire son impact.
Oui.
Si je veux juste rajouter quelque chose, tout en qu'être dans les productions animales, on peut peut-être mentionner la chose qui revient souvent, c'est la production de méthane par les vaches.
Oui.
Donc, moi et Félix, c'est notre domaine d'expertise, la production laitière. Puis, juste rapidement, je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour réduire cet aspect-là, qui est qui est souvent pointé du doigt dans les productions, ben, on va beaucoup avoir recours à des techniques dans l'alimentation, donc des ajouts où on a découvert, par exemple, je mentionne juste un projet qui est en cours sur l'utilisation d'algues qui permettent de réduire la production de méthane des vaches. Certains disent ça beaucoup au niveau de l'alimentation qu'on vient essayer de réduire cette caractéristique-là des productions laitières. C'est juste pour en mentionner une.
C'est un super bon exemple concret, mais effectivement, justement, c'est ce genre de solutions-là qui sont super intéressantes à prendre. Par exemple, je ne savais pas du tout. Donc, merci beaucoup. La question des données, l'intelligence artificielle, c'est super intéressant aussi. On y pense souvent pas. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les sols et l'engrais?
Oui, je peux rajouter certaines sur les sols. C'est sûr que les sols vont contribuer, sont une part là, des émissions des GES en agriculture. Puis, d'une certaine partie, il y a une partie de ces émissions-là qu'on peut pas vraiment échapper là, à moins de complètement arrêter l'agriculture. Mais évidemment, il y a comme certaines pratiques qui vont nous permettre de réduire ces émissions-là. Si j'essaie d'en penser à quelques-unes, là, on pense entre autres au travail réduit ou au semi-direct, qu'on va dire. Donc, plutôt que de travailler le sol à chaque année, bien, on peut diminuer la profondeur du travail du sol ou même, dans plusieurs cas, on peut complètement arrêter le travail du sol. Donc, on va semer les semences de culture directement dans le sol sans l'avoir travaillé. Puis ensuite, le champ, c'est aussi un lieu de séquestration du carbone, si on veut. Mm-hmm. C'est par les plantes que les plantes vont capturer du carbone dans l'air. Donc, aussi par les pratiques puis par les cultures qu'on met en place dans le champ, bien, on peut augmenter la quantité de carbone qui va être prise par les plantes puis parfois transférée vers le sol. Fait que c'est une autre pratique là, qui nous intéresse quand même beaucoup là, dans notre domaine pour essayer d'optimiser la quantité de carbone qu'on retire de l'atmosphère, donc qui globalement réduit les émissions de GES du secteur.
Donc, moins d'aller-retour en tracteur dans le champ.
Oui, puis en plus, cette technique-là fait que, justement, le tracteur est une source d'émissions de GES en agriculture. Fait qu'en utilisant moins le tracteur, on brûle moins d'énergie fossile.
Oh, c'est logique, oui.
Fait que je pense que, tu sais, pour faire un résumé, là, c'est qu'il y a de plus en plus... En fait, les GES, ils viennent un peu partout là, au niveau de la production agricole. Ils viennent des animaux, ils viennent des machineries, ils viennent des sols. Mm-hmm. Mais je pense qu'on peut faire des petits gains un peu partout qui sont sommatifs, en fait, qu'on peut additionner puis venir avoir un impact là, vraiment important si on s'applique à réduire un petit peu dans chacun des milieux.
Mm-hmm. Oui, une intervention très importante, justement. Donc... c'est vraiment plus des solutions plus au niveau de l'atténuation, donc de la réduction des GES. Mais est-ce que vous avez des exemples justement de mesures d'adaptation? Donc comment les milieux agricoles peuvent s'adapter justement aux nouvelles réalités climatiques?
En fait, d'abord, c'est un défi, c'est sûr, oui. Puis ça va s'exacerber aussi. Puis il faut savoir que la population mondiale augmente, puis il va falloir produire plus, tout en gardant en tête qu'on veut réduire notre empreinte sur l'environnement. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut adapter, développer, sélectionner des nouvelles plantes, sélectionner des nouvelles variétés. Pour développer des nouvelles variétés, en fait, pour avoir des plantes qui sont plus résistantes aux nouvelles conditions. On peut aussi varier nos cultures, donc augmenter la diversité au champ. Comme ça, plus on a de cultures différentes, moins on est vulnérable, mm-hmm, sur un aspect, par exemple.
Oui.
Puis, comme Félix disait, il dit la sélection de nouvelles variétés dans les végétaux, mais là, je parle vraiment sur le long terme, mais peut-être qu'un jour, on va avoir des espèces animales. Bien, par exemple, ça va rester une vache, mais une nouvelle race ou une race mieux adaptée à supporter, par exemple, la chaleur.
Okay.
Si c'est vers ça qu'on s'en va.
Avec des modifications génétiques?
Peut-être par sélection, mais peut-être, okay, un croisement de races un peu plus qui viennent un peu plus du sud de la planète qu'on viendrait peut-être importer ou qu'on viendrait peut-être utiliser à notre avantage là, avec des croisements en quelque sorte. Ça, c'est vraiment un exemple que ça n'existe pas encore, là, mais ouais, c'est peut-être qu'on, ouais, s'en va vers là.
Okay.
Puis, tu sais, par exemple, moi, j'aime ça donner des images concrètes, mais pour les animaux, on peut avoir ressource à des brumisateurs dans les étables, donc qui viennent rafraîchir les animaux, les aider à tolérer les températures plus élevées en l'été. Puis, ça permet de conserver les gains de production qu'on fait. Mais donc, augmenter les ventilateurs dans les étables, dans les bâtiments, améliorer la ventilation, puis justement leur donner s'ils sont à l'extérieur, d'accès à de l'ombrage, des sources d'eau. Donc, vraiment des outils de base là, qu'on peut les aider à... pour s'adapter, okay, à ces températures-là.
Super, merci. Oui?
Puis, ben, j'aimerais ajouter que, particulièrement en sol, là, puis en culture, en champ, il y a plusieurs pratiques qui nous permettent de réduire les émissions de GES, mais qui, par la bande, vont aussi permettre d'adapter ces champs-là au changement climatique. Plus précisément, avec les sols, il y a plusieurs pratiques qui vont permettre d'augmenter le carbone dans le sol, donc qui est capté de l'atmosphère. Mais ça aussi, ça va permettre de contribuer à une meilleure santé du sol, puis un sol qui est plus en santé va être justement plus résilient face à différents événements climatiques extrêmes là, qu'on va pouvoir voir, puis qu'on voit déjà un peu. Là. Donc, souvent, tu sais, les pratiques qui permettent de réduire les émissions de GES sont, mm-hmm, sont beaucoup des pratiques qu'on va vouloir mettre en place pour s'adapter au changement climatique.
Oui, donc les deux sont liés, justement, les mesures d'atténuation et d'adaptation. Donc, super. Et en fait, on trouve toujours important, bien, justement, Jean et moi, nous sommes des étudiantes en sciences politiques, donc il y a toujours un petit côté là, politique, affaires publiques, qui est en lien par rapport à ça. Donc, on sait que les gouvernements, que ce soit paliers provinciaux ou les paliers fédéraux, ont tous les deux un rôle à jouer dans la lutte au changement climatique. Et donc, comment les gouvernements, que ce soit n'importe quel palier, peuvent justement aider à lutter, en fait, contre les changements climatiques? Puis est-ce que les gouvernements doivent, en fait, mettre plus de mesures en place? Est-ce qu'ils doivent avoir un meilleur contrôle gouvernemental dans les milieux agricoles?
Bonne question, grosse question.
On peut commencer par une première.
Ouais,
c'est quoi le rôle du gouvernement?
Ouais, ben je commencerai peut-être par dire que les gouvernements sont déjà quand même beaucoup impliqués en agriculture, autant provinciale que fédérale. Là, c'est une compétence partagée.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, on l'a vu dans les dernières années, il y a comme de plus en plus de financement qui est mis autant en recherche que sur la ferme là, pour pouvoir favoriser des pratiques qui vont nous permettre de réduire les émissions de GES à la ferme, qui vont nous permettre de nous adapter,
au
changement climatique. Puis je dirais que c'est ça. Est-ce qu'il y en a assez? Ben c'est sûr que nous, on prêche pour notre paroisse, puis on pense toujours qu'il y a besoin d'un petit peu plus d'aide. Puis c'est surtout que, tu sais, l'agriculture au Québec, on compétitionne contre l'agriculture aux États-Unis, contre, mmh, l'agriculture dans d'autres pays qui n'ont pas nécessairement les mêmes normes, parce qu'au Québec, on a quand même des normes qui sont plus sévères qu'ailleurs, mmh, ce qui fait que c'est plus difficile pour les agriculteurs d'accoter les prix de l'international,
ouais,
avec les normes qu'on a ici. Donc, c'est le genre de situation qui demande un investissement du gouvernement. Mais après ça, ben, c'est quand même une volonté du gouvernement qui est relativement présente. Mm-hmm. Je parlerai peut-être juste du plan d'agriculture durable là, qui a été mis en place en 2020 pour l'horizon 2030, qui est comme une liste de mesures là, pour à la fois aider la recherche à orienter ses travaux là, vers ça. Puis aussi à financer un peu plus les pratiques agricoles.
OK, super, oui.
Si je veux rajouter aussi, tu sais, ça pourrait être facile de dire, ah, mais les gouvernements, ils ont juste à mettre ça, serrer la vis ou, mm-hmm. tu sais, mettre des normes un peu plus sévères. Mais il faut que ce soit réaliste pour les entreprises. Il faut que les entreprises soient, tu sais, rendues là, équipées, prêtes. Tu sais, il faut que cette pratique, la limite soit atteignable concrètement mm-hmm. par les producteurs. Puis, il y a des producteurs c'est très diversifié. Donc, on a des gros producteurs qui sont déjà bien et qui ont les moyens, qui sont bien déjà équipés pour atteindre des nouvelles limites. Mais il y en a d'autres qui ne seront pas capables de suivre la vague. Donc, il faut vraiment réfléchir. Ça vient vraiment avec une grande réflexion de mettre des nouvelles limites, mais comment on les atteint, puis comment les producteurs, est-ce que des outils qu'ils ont besoin pour mm-hmm. le faire. Là.
Okay. Ouais. Puis rapidement, concrètement, si on veut si on voudrait légiférer sur les fermes pour réduire, par exemple, les émissions, ben, il faut être capable de les mesurer aussi. Mm-hmm. Puis quelque chose qui est assez juste, là, pour on ne veut pas nécessairement pénaliser les productrices, les producteurs avec des mesures qui ne sont pas très fiables, par exemple. Donc, je pense qu'il y a un défi là, à ce niveau-là aussi de savoir qu'est-ce que les entreprises émettent mm-hmm. En réalité, puis de le mesurer constamment.
Oui, vous avez bien raison. Donc, justement, prendre en compte les réalités agricoles sur le terrain. Justement, on peut sentir des fois qu'il y a une déconnexion là, par rapport au milieu gouvernemental. Donc, justement, cette connaissance-là du terrain est très importante, le financement aussi, bien entendu, puis le réalisme là, des mesures. Donc, vous avez super bien répondu et vous avez vraiment bien englobé les réponses. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui va conclure notre émission qui abordait le lien là, entre l'agriculture et les changements climatiques. Donc, je rappelle en fait que vous êtes les fondateurs du projet étudiant.ferme, donc désolé, qui est une page Instagram justement de vulgarisation scientifique par rapport aux enjeux de l'agriculture en rapport avec le développement durable. Donc merci beaucoup Simon Corbeil, Léonie Laflamme-Michaud et Félix Huot. Et vous avez aussi un collègue là, qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui, donc Benjamin Fouquette.
Je vais juste le mentionner parce que...
Il fait partie de l'équipe, oui. Donc, ben, merci à vous trois et à Benjamin Fouquette d'être venus nous voir aujourd'hui. Donc, c'est ce qui met fin à notre émission. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc, merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode sur les ondes de CHIZ 94.3. À la prochaine!